Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, semaine spéciale consacrée à la Chine sur Canal Académie qui regarde l'empire du milieu sous tous les angles, sous toutes les coutures, on pourrait dire, dans le textile. Un sujet hautement épineux, on aura peut-être d'ailleurs l'occasion d'en discuter. Sous le regard, bien sûr, de l'économie, hein, c'est un sujet de préoccupation de premier plan quand on parle de la Chine. La Chine, objet de toutes les peurs, ce sont les délocalisations, à première vue, hein, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Mais c'est aussi, bien sûr, un objet de convoitise, l'immense marché que représente la Chine. La Chine, grande puissance de demain, qui est déjà l'atelier de la planète, hein, sera-t-elle le cimetière de nos industries? C'est une question aussi d'actualité, bien sûr. Et surtout, c'est l'angle que nous avons choisi pour cet éclairage. Surtout, comment aborder la Chine, hein. 2001, c'était l'adhésion de la Chine à l'OMC. 2005 a marqué l'année de la France en Chine. Et pour en parler, c'est une grande figure du monde industriel français que nous recevons. C'est Bertrand Collomb. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Collomb, bien sûr, PDG de Lafarge, numéro 1 mondial des matériaux de construction. Vous êtes très présent en Chine. On peut rappeler deux secondes, hein, ce que représente le marché du ciment en Chine, hein. Vous avez
Le marché du ciment en Chine, c'est 40% du marché mondial d'ores et déjà.
C'est colossal.
C'est colossal et ça tient bien sûr au nombre d'habitants de la Chine et ça tient surtout à l'intensité de l'activité de la construction. Par exemple, la consommation de ciment par tête en Chine est 4 fois supérieure à celle qu'elle est en Inde.
4 fois supérieure. Comment expliquez-vous cette croissance extrêmement soudaine et ce décalage avec l'Inde qui est présentée aussi comme la grande puissance de demain?
Simplement parce que la Chine a mis l'accent sur les infrastructures et sur la construction, alors que l'Inde n'a pas été capable de le faire. Et il n'y a qu'à voir l'état des infrastructures en Inde, on se rend compte qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. Alors qu'en Chine, je me rappelle d'avoir quitté la ville de Chengdu, donc dans le coin ouest de la Chine, vers le Tibet, pour aller dans le site de notre nouvelle usine, il y avait une autoroute à 4 voies, où il y avait d'ailleurs encore très peu de circulation. Mais donc les infrastructures ont joué un rôle en Chine dominant pour stimuler, précéder, favoriser le développement économique. Donc consommation importante de matériaux de construction.
Ce seuil de 40%, Bertrand Collomb, vous l'avez atteint à quelle période?
Non, c'est pas nous qui l'avons atteint, c'est le marché chinois dans son ensemble qui représente 40% du marché mondial.
C'est
alors,
ça.
Alors nous n'en sommes pas là à l'intérieur du groupe.
Oui, c'est une nuance.
Mais
ce que représente la Chine pour vous, alors pour votre
nous,
groupe.
La Chine représente actuellement à peu près la même chose que l'Amérique du Nord en termes de volume. C'est-à-dire, ça représente une capacité de l'ordre de 20 millions de tonnes sur un total de capacité du groupe de l'ordre de 140. Et d'ailleurs, et ça c'est simplement dans une partie de la Chine. Nous sommes essentiellement dans le sud-ouest de la Chine. Et ce sud-ouest de la Chine, c'est en gros d'ailleurs la même chose que les États-Unis. C'est en gros 250 millions d'habitants. Et c'est en gros 100 millions de tonnes de ciment. Voilà. Et là-dessus, nous avons 20% de part de marché, ce qui est une position relativement importante. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour nous, puisque nous sommes en Chine depuis longtemps, depuis 12 ans. Mais cette extension de notre taille date du début de cette année, puisque nous avons fait un partenariat, une joint venture, s'il m'est permis de parler en franglais à Canal Académie.
Section d'intérêt.
Nous avons fait ça avec un groupe de Hong Kong tout récemment, mais nous avons le contrôle. Donc nous sommes en pleine explosion de notre présence chinoise. Nous avons mis très longtemps à apprendre la Chine. Nous avons commencé en 92 et au début ça a été petit, au début ça a été difficile. Nous avons constitué des équipes chinoises et là depuis un an, vraiment notre position a considérablement augmenté.
Une nouvelle usine récemment?
Alors plusieurs nouvelles usines récemment.
2 cette année?
Oui, c'est ça.
Dans la même région?
Toujours dans la même région, une à Chongqing, la ville-province de Chongqing, qui est sur le Yangtze, au bout du barrage, enfin au bout du lac du Yangtze, qui est une ville d'une activité incroyable. C'est presque comme Shanghai quand on va là-bas. Et puis une autre du côté de, comme je disais, à la limite ouest de la province du Sichuan, qui s'appelle Dujiangjiang.
Votre première impression quand vous êtes arrivé en Chine, Bertrand Collomb?
Ma première impression, je suis allé en Chine au début des années 90. Ma première impression, c'était la coexistence d'une Chine extrêmement qui était déjà en train de se développer, enfin la côte, Canton, Shanghai, et puis d'une Chine extrêmement sous-développée.
Et qui concerne quand même 1 milliard d'habitants.
Exactement. Hein. Et il se trouve que j'aime bien quand J'ai un intérêt business pour un pays, j'aime bien aussi y passer du temps à titre personnel. J'ai donc fait un voyage de 3 semaines en Chine, essentiellement dans le Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, la partie d'ailleurs qui est ethniquement moins chinoise et qui est beaucoup plus musulmane. Et on se retrouvait l'Asie centrale, disons peu développée. Une autre occasion, je suis allé voir le village natal de Sun Yat-sen. On était dans une Chine de gourbis et de ruralité extrêmement primitive. Alors ça a bien sûr évolué, mais quand même encore maintenant, quand vous prenez l'autoroute entre Chengdu et Chongqing, vous avez une autoroute magnifique et vous voyez au pied de l'autoroute des gens qui labourent avec une charrue tirée par des bœufs. Donc il y a cette coexistence.
Donc contraste énorme entre la Chine de l'intérieur et la bande côtière. Le développement concerne à peu près 300 millions d'habitants aujourd'hui.
Mais le développement n'est pas maintenant uniquement sur la bande côtière, car les villes de Chongqing ou Chengdu dont je parle sont
dans l'ouest. Oui, c'est déjà dans l'intérieur.
Donc en fait, c'est disons différence entre les zones urbaines ou les zones en cours de développement et les zones rurales profondes.
Alors cette première impression que vous aviez en Chine, c'était, vous le disiez, dans les années 80.
Fin des années 80, début des années 90.
Oui. Maintenant, vous y allez, j'imagine, régulièrement?
J'y vais régulièrement. On a beau y aller régulièrement, on est chaque fois estomaqué, on est chaque fois très surpris par la rapidité du développement. Et ce développement a été à peu près continu. Il y a eu, bien sûr, des moments où on avait l'impression qu'à Shanghai, il y avait une crise immobilière, puis c'est reparti, etc. Mais enfin, pratiquement, c'est un développement ininterrompu, un développement à un rythme incroyable. Si vous revenez en Chine un an plus tard, il y a plein de choses. À Pékin, c'est tout juste s'il n'y a pas un périphérique supplémentaire tous les ans, enfin c'est peut-être tous les 2 ou 3 ans. À Shanghai, vous avez des tours nouvelles, vous ne venez jamais dans le même hôtel parce qu'on veut toujours vous mettre dans le dernier hôtel qui vient d'être construit, etc. Enfin, ça bouge énormément.
Vous diriez que ça bouge de manière un peu anarchique ?
Oui, dans un certain sens. Si vous voulez, on parlait de l'Inde et de la Chine tout à l'heure. Moi, je vois l'Inde comme étant un peu l'Europe des années d'avant-guerre ou des années 50. C'est-à-dire que c'est une société assez rigide, assez cohérente, qui bouge, mais qui a du mal à bouger. L'image qui me vient à l'esprit quand je vois la Chine, c'est plutôt le Far West américain, le développement débridé du début du siècle américain avec les roving barons, ces barons voleurs qui étaient qui sont devenus depuis des dynasties tout à fait respectables d'entrepreneurs américains, avec tout est possible en Chine. Et un esprit d'ailleurs entrepreneurial, un esprit entreprenant extraordinaire.
Ce n'est pas seulement un pays qui croit par transpiration, c'est aussi un pays qui croit par innovation.
Alors, ça dépend ce que vous appelez innovation. Mais oui, ils innovent beaucoup. Si je prends un exemple, nous sommes en Chine dans la plaque de plâtre. La plaque de plâtre, c'est un produit, vous savez, c'est un sandwich de carton et de plâtre, qui est apparu aux États-Unis dans les années 30, qui s'est développé en France dans les années 60. Partout ailleurs dans le monde, il n'y a qu'un seul type d'usine de plaques de plâtre, qui sont des grosses usines de plusieurs dizaines de millions de mètres carrés, et qui sont détenues par des groupes industriels d'une certaine taille. En Chine, ils ont inventé des mini-usines de plaques de plâtre, avec des technologies bricolées. Ça vous donne des produits de mauvaise qualité, enfin, que nous considérons comme de mauvaise qualité, mais qu'ils arrivent à vendre. Donc c'est de l'innovation, c'est de l'innovation dans un sens différent de ce que nous entendrions nous-mêmes, parce que c'est pas une grande innovation technologique, c'est une innovation entrepreneuriale pour faire des produits pas chers, adaptés à un marché dont, comme je vous le disais, une partie n'est pas extrêmement sophistiquée.
Est-ce que vous voyez une évolution analogue à l'esprit japonais qui sait très bien copier et qui pourrait copier nos techniques et nous les renvoyer dans la figure ?
Non, le modèle chinois est totalement différent du modèle japonais. Le modèle japonais est un modèle de cohérence globale, cohérence de la société qui est extrêmement cohérente, où l'individu s'efface derrière le groupe, cohérence des grandes sociétés et de l'accord et de la complicité entre les grandes sociétés et une administration très, très forte, très cohérente, alors que la Chine, c'est le royaume de l'individualisme. Ça se voit d'ailleurs très bien quand on est dans les rues de Pékin. Dans les rues de Pékin, une des choses qui m'a frappé au début, c'est le nombre de gens que j'entendais s'interpeller avec une extrême vivacité. Alors, au début, je savais pas très bien s'ils étaient en train de se quereller ou si au contraire c'est bon. Alors qu'au Japon, au contraire, vous êtes tout est très calme, tout est très, on n'élève pas la voix, etc. Bon, et en Chine, il y a cette initiative, cette floraison d'initiative qui est pas du tout planifiée, organisée. Enfin, le gouvernement chinois contrôle bien entendu beaucoup de choses. Mais il les contrôle par un certain nombre de leviers. De temps en temps, il est clair que derrière le rideau, comme on dit là-bas, il se passe des choses qui sont pas du libéralisme économique. Mais en même temps, il y a énormément d'initiatives et dans le domaine économique, il y a beaucoup de liberté.
Donc, royaume de l'individualisme, ce qui donne à la Chine une longueur d'avance sur ses concurrents, y compris en Extrême-Orient. Parce que la Chine, déjà, en plus, irrigue, on sait que les
oui,
Chinois
alors, effectivement,
sont un peu les juifs de l'Asie.
Bon, bah, historiquement, la diaspora chinoise a toujours été extrêmement forte dans les aspects négoce, les aspects commerce. Donc, oui, les Chinois ont la puissance du nombre, ils ont la puissance de cette continuité d'évolution que depuis Deng Xiaoping, ils ont eu dans le domaine politique, avec bien sûr les problèmes du contrôle du pays par le parti qui reste extrêmement fort. Et donc effectivement, mais je suis pas sûr que les Chinois gagneront sur tous les plans. Si vous voulez, si nous regardons par exemple dans notre secteur, ils sont capables de construire des cimenteries simples et pas chères du tout. Mais ils ont beaucoup plus de difficultés à les gérer. Car les gérer veut dire une discipline, veut dire entretenir correctement, veut dire ne pas tirer excessivement sur les outils et je trouve que il y a souvent en Chine une attitude très court terme de vouloir tout de suite, un peu comme les Américains d'ailleurs, et on trouve, il m'est arrivé de visiter des usines de concurrents chinois qui au bout de 4 ou 5 ans avaient l'air de vieilles usines parce qu'elles n'avaient pas été gérées avec la continuité, avec le souci professionnel que nous avons. Mais ceci dit, c'est pas vrai partout, et dans un certain nombre de cas, ils apprennent assez vite.
Comment une maison comme Lafarge, un grand groupe comme le vôtre, arrive dans un pays comme celui-ci ? Vous y arrivez avec une technique particulière, une technique d'approche ?
D'abord, pourquoi on y arrive ? Pourquoi on y va ? Bien entendu, nous ne sommes pas dans une logique de délocalisation, parce que nos produits, tout simplement, ne voyagent pas sur longue distance, ce sont des produits locaux, qui doivent être vendus sur des marchés locaux. Donc quand nous allons en Chine, c'est pour fabriquer en Chine des produits qui seront vendus en Chine. Alors ce qui nous attire bien sûr, c'est la dimension du marché chinois et c'est son dynamisme, c'est son taux de croissance. En Chine, les marchés du ciment par exemple augmentent très régulièrement.
7 à 8% par an ?
Oui c'est ça. 6 à 8% par an, 10% c'est une très bonne année, 6% c'est une mauvaise année. Alors qu'évidemment, dans nos pays, 2% c'est déjà pas mal, 3% c'est une excellente année. Bon, donc la dynamique des marchés est différente. Donc comment nous sommes rentrés ? Nous sommes rentrés avec prudence, parce que d'abord les premières négociations étaient très longues. Vous savez qu'en Chine, avant les années 90, vous pouviez pas rentrer sans avoir un partenaire chinois, et dans un certain nombre de cas, le partenaire chinois contrôlait ce que vous faisiez.
Une sorte de parrain.
Voilà. Même dans nos industries avant 90, les Chinois voulaient bien accepter des investissements étrangers à condition que ça soit pour l'exportation. Or, dans notre secteur, ça ne faisait pas de sens. Les Japonais ont fait quelques usines cimentières en Chine pour l'exportation vers le Japon. D'ailleurs, finalement, ces usines ont vendu en Chine parce que le marché chinois s'est développé. Mais nous ne voulions pas faire ça. Donc nous avons attendu qu'il soit possible de faire des usines pour le marché chinois et qu'il soit possible de faire des usines sans partenaire majoritaire. Et ça s'est situé vers 92-93. Nous avons une première négociation, nous avons repris une petite usine près de Pékin qui était une usine qui ne marchait pas, faite par des gens qui étaient pas bons et bon et avec un monde fou, une petite usine, nos techniciens nous ont dit pas de problème, cette usine elle va marcher avec les équipes Lafarge. Donc on a repris tout ça. Les deux premières années ont été absolument catastrophiques. Car finalement théoriquement, c'était une usine qui devait marcher, mais pratiquement bah il s'agissait de travailler avec des équipes chinoises, on avait pratiquement personne qui parlait chinois, pratiquement personne dans cette usine ne parlait anglais, évidemment encore moins français. Arriver à comprendre les méthodes de travail qui étaient les méthodes Lafarge, c'était très difficile, et nous arriver à comprendre la réalité chinoise, c'était très difficile. Donc les deux premières années ont été horribles. Maintenant, cette petite usine, qui est une usine de 300 000 tonnes, qui n'avait jamais produit plus de 120 000 tonnes avant que nous l'achetions, en produit 700 000. Donc, ça a été un très grand succès. Mais ce très grand succès, il a fallu...
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Éclairage sur la Chine avec Bertrand Collomb, membre de l'Institut PDG de la Farge, numéro 1 mondial des matériaux de construction. La Chine, comment aborder cet immense pays, ce marché chinois? Vous nous avez parlé à l'instant de la complexité de pouvoir s'accorder entre mentalité chinoise, mentalité française. Puis finalement, les choses pour cette première usine à Pékin fonctionnent comme vous, peut-être, ne l'auriez pas escompté. Donc c'est un immense succès, vous nous l'avez dit. Comment se passe une négociation avec des Chinois? On dit que c'est très difficile parce que les termes, la façon de négocier n'est pas la même. C'est toujours difficile d'entrer dans une logique un peu contractuelle avec eux, non?
Oui, les négociations ont toujours été longues et difficiles, surtout parce qu'ils reviennent sans arrêt. Il n'y a jamais rien d'acquis dans une négociation chinoise. Je me rappelle la première négociation, nous avions fixé les paramètres, nous voulions la majorité, etc. Eh bien, apparemment, ils avaient compris, ils étaient d'accord. Puis 15 jours plus tard, ils revenaient en disant « ben non, c'est nous qui voulons la majorité ». Et puis ensuite, notre directeur général venait de Paris, on avait une séance de négociation, il remettait sur le tapis des choses dont on avait l'impression qu'elles avaient été acquises déjà. Donc une négociation, on revenait toujours sans arrêt sur les choses. D'autre part, c'est vrai que là, il y avait par exemple dans notre premier accord, la possibilité d'une extension de l'usine. Cette extension de l'usine, nous n'avons jamais pu la faire, car il y a toujours eu des raisons. La municipalité de Pékin avait changé à l'époque, et la nouvelle municipalité n'a pas voulu nous laisser faire l'usine, a trouvé des prétextes, environnement, etc. Donc finalement, une partie importante de l'accord que nous avions passé n'a pas été réalisée. Mais malgré tout, dans l'ensemble, ça s'est pas mal passé. Et je dois dire qu'il y a eu des différences de niveau. L'accord que nous avons eu avec la municipalité locale, puisque Pékin est une énorme municipalité qui est séparée en un certain nombre de municipalités locales. La municipalité locale, l'accord qu'on a eu avec eux était très bon. Mais quand on remontait à Pékin, au gouvernement central, c'était plus compliqué. Donc, et un peu la même chose dans d'autres initiatives que nous avons eues à Shanghai, dans notre activité plâtre. Bon, dans l'ensemble... nous avons réussi à bien travailler avec les partenaires chinois, mais en gardant toujours, dès le début, notre autonomie de décision et de gestion. Nous n'avons, par exemple, jamais accepté un schéma où nous aurions été les producteurs et où un partenaire chinois aurait été le vendeur. Car là, clairement, certaines sociétés occidentales ont été piégées dans ce genre de situation. C'est pas viable. Mais, ceci dit, c'est pas viable en Chine, ça serait pas viable ailleurs non plus. La seule chose, c'est qu'en Chine, c'était plus difficile au départ d'obtenir, d'avoir l'autonomie de ces mouvements.
Vous le disiez, c'est le Far West, le royaume de l'individualisme. Oui, mais un État, et vous l'avez dit aussi, un État quand même, un parti très présent, très puissant. Est-ce que vous acceptez la dénomination la Chine libérale communiste? Ça vous irait?
Ça dépend de ce qu'on appelle libéral. Il y a sans aucun doute un libéralisme économique. Je pense que, encore une fois, même si le gouvernement se réserve d'intervenir quand il veut, même dans le domaine économique, il laisse les mécanismes de marché fonctionner.
Ça ne crée pas de l'incertitude, ça, pour les entreprises?
Non, l'incertitude principale qu'on a pour nous, c'est la nature des acteurs. Parce que dans une vieille industrie comme la nôtre, il y a des acteurs existants, il y en a beaucoup, et ce sont pour l'essentiel des acteurs d'État. Enfin, quand je dis d'État, c'est d'État, de province ou de commune, mais des acteurs publics. Et ces acteurs publics, ils sont pris par la même frénésie entrepreneuriale que les autres. La seule chose, c'est qu'évidemment, les règles du jeu pour eux sont assez différentes. Ils n'ont pas d'actionnaires autres que l'État. Et donc, l'idée de rentabilité, pour eux, c'est pas quelque chose de très clair. Dans le secteur public, une entreprise qui avait un cash flow positif, c'est-à-dire qui ne perdait pas d'argent, c'était formidable. Bon, alors que nous, quand nous investissons, nous voulons un retour sur investissement. Alors, ça évolue parce que des acteurs purement publics, il y en a de moins en moins. Les plus entrepreneuriaux vont se faire coter sur la bourse de Shanghai ou font des partenariats avec des intérêts privés de Hong Kong ou occidentaux. Donc de plus en plus de joueurs sont des joueurs qui, comme nous, ont besoin de gagner de l'argent. Mais ça reste quand même un des problèmes, et c'est pour ça d'ailleurs que le prix du ciment en Chine est un des prix les plus bas du monde, et que, heureusement, le prix des investissements est également très bas, et les coûts de production sont également très bas, mais pour arriver à avoir une rentabilité correcte en Chine, ce n'est pas facile. Et il y a énormément d'entreprises occidentales qui sont présentes en Chine, mais qui ont du mal à obtenir la rentabilité qu'elles souhaitent. Donc, ça, c'est l'aspect libéral économique. Sur le plan politique, il est clair qu'il n'y a aucun libéralisme. On peut faire tout ce qu'on veut en Chine sur le plan économique, du moment qu'on n'apparaît pas comme voulant contester le gouvernement. Alors, libéral-communisme, oui, si ce que vous voulez dire, c'est un aspect libéral en économie et contrôlé en politique, oui, c'est bien ça qui est le modèle chinois.
Alors, c'est une définition de Luc Richard et de Philippe Cohen, deux journalistes qui ont écrit « La Chine sera-t-elle notre cauchemar ?» aux éditions Mille et Une Nuits, qui font un diagnostic plutôt effrayant quand même des conditions dans lesquelles, évidemment, se déroule le capitalisme sur place. Alors évidemment, on a toujours envie de se poser la question, vous présidez un grand groupe, vous nous avez dit les coûts de production sont très bas, bon, dans une usine Lafarge, comment ça se passe?
Bah dans une usine Lafarge, ça se passe...
pas le goulag
ça,
quand même.
Non, pas du tout, ça se passe très bien. D'abord, quand nous sommes arrivés, les usines que nous avons reprises, c'était des usines qui avaient des modèles de gestion extrêmement autocratiques et anciens. Dans la première usine que nous avons achetée, il y avait 23 niveaux hiérarchiques entre le directeur d'usine et l'ouvrier de base. Et
23 niveaux hiérarchiques.
C'était une toute petite usine.
Oui. Fantastique.
Alors, bien sûr, nous avons réduit ça à 5 ou 6. Mais la première fois que le directeur d'usine, qui était d'ailleurs un Américain, s'est mis en bleu de travail pour rentrer dans un broyeur qui était en réparation, les Chinois étaient absolument sidérés. On avait l'impression que le fils du ciel était descendu de son trône. Donc les styles étaient très différents. Mais maintenant, ils se sont très bien adaptés. On a des équipes de gens très compétents qui travaillent très bien. Et je crois qu'ils ont trouvé le meilleur entre précisément cette capacité d'entrepreneuriat, d'initiative, de coups bas chinoises et les méthodes... Lafarge, l'attention au processus, la rigueur, le professionnalisme, etc.
Vos cadres sont chinois ?
Ah oui, bien entendu. La majorité des, enfin, nous avons très peu d'expatriés en Chine. D'abord parce que c'est pas commode d'avoir des expatriés qui parlent chinois, et puis ensuite parce qu'un expatrié coûte très cher par rapport à un chinois. Donc nous avons une structure qui est essentiellement chinoise, ce qui n'est pas sans risque d'ailleurs, car un petit peu comme les Américains il y a quelque temps, je trouve le parallèle entre la Chine et les États-Unis, moi pour moi est intéressant. Ils ont un pays continent qui a un peu l'impression quand même qu'il peut suffire à lui-même, qu'il est un peu le pays qui devrait dominer le monde, et donc il y a un certain risque qui se renferme sur eux-mêmes et qui ne participe pas suffisamment aux échanges et à l'expérience du groupe. Et ça, c'est vrai à l'intérieur d'un groupe comme le nôtre, c'est vrai l'utilisation de l'OMC par la Chine au niveau général.
Alors justement, c'est précisément ce que je voulais vous poser comme question. Comment pense un cadre chinois ? Il arrive à penser Lafarge, il arrive à entrer dans la mentalité d'un groupe international occidental, il arrive à se fondre dans le moule, à copier un peu comme faisaient les Japonais. J'ai pris le parallèle du Japon qui ne correspond pas à la réalité, ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais arrive-t-il à intégrer tous les modes occidentaux ?
Bah écoutez, d'abord, c'est difficile à savoir parce que nous n'avons pas nous-mêmes forcément compris tous les modes, tous les aspects culturels chinois. Et je ne suis pas persuadé que nous sachions décoder complètement le comportement des cadres chinois. Ensuite, les cadres chinois, il y en a de plusieurs types. Il y a le cadre, disons l'ingénieur de base qui a grandi dans une société cimentière chinoise que nous avons embauché après quelques années, qui est un provincial. Et qui, lui, aura des réactions qui sont très dominées par le métier. Et dans le fond, il évolue avec sa compréhension du métier et on arrive à avoir d'assez bons résultats. Vous avez ensuite des Chinois qui ont fait leurs études à l'étranger. Nous avons beaucoup dans nos cadres de Chinois qui ont fait des études en Australie, qui ont fait des études à Hong Kong, qui pour eux étaient considérés comme l'étranger, ou aux États-Unis. Bon, ceux-là, ils ont effectivement deux cultures. Je me rappelle de l'un d'entre eux qui était à la fois extraordinairement chinois en ce sens que il voulait se consacrer vraiment au développement de la Chine et en même temps extraordinairement critique des habitudes, des mauvaises habitudes de la société chinoise, parce que lui avait fait ses études en Australie et qu'il aurait voulu que tout devienne professionnel à l'australienne ou à l'américaine. Donc un peu écartelé entre ces deux aspects. Moi, je trouve que dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est-à-dire que dans l'ensemble, quand je vois des cadres chinois dans des réunions internationales du groupe ou quand je les vois quand quand je vais visiter la Chine, je trouve des gens avec lesquels on a un dialogue tout à fait constructif et ouvert, plus ouvert que ce qu'on avait avec les Japonais.
Écartelé, dites-vous, exprime-t-il une vision contestataire à l'égard de leur régime ?
Non, alors on ne parle jamais de politique dans l'entreprise en Chine. Principe absolu. Alors, il m'est arrivé, moi, d'avoir une expérience personnelle, indépendante, intéressante, car j'ai eu l'occasion de rencontrer aux États-Unis l'un des leaders de Tiananmen. Mm-hmm. L'un des jeunes étudiants qui était leader de Tiananmen, un type extrêmement brillant, qui d'ailleurs, après avoir été exfiltré de Chine par Hong Kong, par un réseau d'amis, a fait à la fois un MA, un MBA à Columbia en 2 ans, et travaille maintenant dans un fonds d'investissement à New York. Ce gars extrêmement brillant m'a beaucoup parlé de leurs rêves, mais lui-même, alors il peut pas retourner en Chine, il sait pas comment ce qui se passerait s'il retournait en Chine, il aurait beaucoup envie de travailler en Chine, mais il peut pas parce qu'il risque d'être mis en prison. Mais lui-même m'a dit finalement, au bout d'un certain temps, je reconnais que Tiananmen c'était un rêve, et c'était probablement pas la meilleure façon de faire avancer la Chine. Il faudra du temps. Et donc, je crois quand même qu'il y a beaucoup de Chinois qui, en leur fort intérieur, aimeraient qu'il y ait plus de liberté, mais qui reconnaissent que c'est pas quelque chose qui peut se passer tout de suite. Alors, une autre expérience personnelle que j'ai eue, c'est un professeur d'université que nous avions comme guide dans la descente du Yangtze, il y a quelques années, et qui nous a dit ouvertement qu'il était un membre de la secte Falun Gong. J'étais très surpris d'ailleurs qu'il le dise. Et quand on lui demandait pourquoi, il dit « Écoutez, le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune valeur culturelle dans notre pays, les gens ne pensent qu'à gagner de l'argent. » Et ça, pour un universitaire, pour un vieux professeur qui parlait très bien français, c'était insupportable. Il disait « Il faut qu'on retrouve certaines de nos valeurs traditionnelles. » Et Falun Gong, pour lui, bizarrement, c'était ça. C'était essayer de retrouver un peu de sens spirituel à la vie. Alors, c'était bizarre parce que c'était au départ fondé sur la gymnastique chinoise. Hein. C'était ça. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'était pas extraordinairement subversif, en fait, comme idée. Mais ça a été considéré par le régime.
Et le régime les poursuit sévèrement.
Ah, oui, ils ont été persécutés affreusement. Mais ce gars-là n'était pas un révolutionnaire. Mais c'était quelqu'un qui se disait, on peut pas avoir comme idéal de la société uniquement de gagner de l'argent.
Donc il y a une certaine ambivalence dans le regard qu'il porte sur l'Occident et les sociétés occidentales, qui ne sont pas perçues comme des libératrices.
Ah, moi je suis persuadé que dans le fond de l'âme chinoise, la plupart des Chinois considèrent qu'ils sortent d'une période où la Chine n'a pas tenu le rang qu'elle devrait avoir dans le monde, et que les choses vont redevenir normales. C'est-à-dire que la Chine va redevenir la puissance dominante du monde. Car c'est l'image qu'ils ont de la Chine. Alors, bon, j'exagère un peu parce que c'est vrai, et en même temps, je vous ai dit, de ceux qui ont été faire des études à l'étranger sont quand même tout à fait conscients de la force et de la puissance du modèle occidental. Mais je crois qu'il y a les deux. C'est-à-dire, il y a l'idée de se servir du modèle occidental, mais en même temps, de retrouver une position forte pour la Chine. Notre espoir, c'est que ce nationalisme chinois ou cet impérialisme chinois potentiel ne puisse plus prendre de forme séparatiste à partir du moment où les liens économiques qui ont été tissés entre les Chinois et le reste du monde seront tellement forts qu'ils seront un peu comme nous par rapport à l'Europe. Même les anti-européens ne peuvent pas imaginer que la France sorte de l'Europe parce que c'est plus possible.
C'est un espoir que l'histoire a quand même démenti. Hein.
Bah écoutez, enfin on verra.
L'interdépendance économique comme rempart à la guerre, on peut l'espérer. Hein.
Rempart à la guerre, oui, mais oui, c'est
en tout cas à l'impérialisme.
Oui, mais disons que comme ce qui est à craindre de la Chine, c'est pas tellement un impérialisme actif, c'est surtout le fait qu'il s'isole ou qu'il ne participe pas au jeu mondial. Je pense quand même que on a des chances qu'ils aient trop d'intérêts mutuels, que Enfin, en tout cas, une société, ce que nous faisons dans une société comme la nôtre, à mon avis, ça joue dans ce sens-là. C'est-à-dire, nos Chinois, ils participent à des réunions internationales, ils fréquentent, ils sont devenus...
Ils sortent sans difficulté du pays.
Ah, aucun problème. Hein? Aucun problème. Mmh. Aucun problème.
Pas de tracasserie sur les visas, comme non, pour non, les religieux,
pas,
par
exactement,
exemple.
Exactement, non, pas de tracasserie. Exactement, pas du tout. Et donc, ils participent à un réseau, au réseau mondial, très bien, et je pense que ça modifie le regard qu'ils peuvent porter sur le monde.
On marque une seconde pause.
Canal Académie.
Éclairage donc avec Bertrand Collomb, membre de l'Institut consacré à la Chine. La Chine et la présence de Lafarge, numéro un mondial des matériaux de construction. Comment on aborde ce grand pays et comment on entre dans une mentalité qui peut nous paraître très étrangère, mais finalement très familière, parce que la Chine, c'est loin, en même temps, c'est extrêmement proche pour les Français qui en ont une vision que vous estimez extrêmement déformée. Ou bien, est-ce que les Français ont une bonne intuition de ce qui se passe là-bas ? Et des répercussions que la puissance de la Chine peut avoir sur notre économie.
Non, moi je crois que la vision...
On fantasme ou pas ?
On fantasme un peu quand même. C'est-à-dire que imaginer que les entreprises occidentales vont tout faire en Chine et qu'il n'y a plus rien qui puisse être fait en France, c'est manifestement pas sérieux. On sous-estime la difficulté qu'il y aura toujours à travailler en Chine. On sous-estime le fait que, encore une fois... Les Chinois sont bons sur certaines choses et ils sont pas toujours excellents partout. Donc je pense que on exagère le risque chinois dans un sens, mais dans l'autre, on est conscient. Je crois que ce qui est vrai, c'est que c'est un ensemble énorme et que pour qu'ils jouent le jeu mondial, il faut établir avec eux une relation à la fois de coopération, mais une relation attentive. En particulier, on parlait de l'OMC tout à l'heure. Il faut faire très attention que la Chine ne fasse pas comme le Japon l'avait fait à une autre période, qui est de jouer les règles de l'OMC uniquement à son avantage, en ne jouant pas les règles qui ne sont pas à son avantage. Et ça, je crois que c'est une responsabilité commune des États-Unis et de l'Europe, de veiller à ce que la Chine, effectivement, joue le jeu. Et c'est pas facile, parce qu'ils ont une capacité de négociation, une capacité de faire un pas en avant, puis de faire un pas en arrière, etc., qui est manifestement très très forte.
Quand la Chine nous déshabillera, ça va vraiment se produire ?
Bah écoutez,
c'est délocalisation en masse. Quand
bah
même,
je crois qu'il
n'y a pas de concurrence possible. Hein. On
non,
ne peut
mais
pas
attendez,
rivaliser
attendez,
avec
je crois
un pays
qu'il n'y a
comme
pas de concurrence
celui-ci.
Possible sur ce qui est production de masse, demandant une main d'œuvre soit pas qualifiée, soit qualifiée dans un sens gestuel, comme pour l'électronique par exemple, puisqu'apparemment les Chinois comme les Asiatiques d'ailleurs ont une intelligence manuelle qui leur permet de manipuler des petites choses meilleures que nous occidentaux. Bon, mais dans le textile, je crois que le modèle est clair. Tout ce qui est de masse, tout ce qui est déjà parti depuis longtemps en Chine ou dans d'autres pays. Mais ce qui est proche des marchés, ce qui est l'adaptation à la mode, ce qui est l'adaptation, ben ça peut rester chez nous du moment que nous ne faisons pas de bêtises.
Ça peut rester chez nous, mais on a déjà, par exemple, dans l'automobile, des centres de recherche ou dans l'informatique qui sont en Inde, en Turquie, évidemment, et déjà peut-être
bien
en
entendu,
Chine.
Bien entendu, il y aura des centres de recherche en Chine.
Du gradé.
Bien sûr, non, mais la Chine ne va pas être uniquement du non qualifié. Si vous voulez, la recherche, c'est pas le coût qui est en cause. La recherche, c'est le dynamisme et la relation entre recherche, innovation et marché. Et ce qui nous pénalise en France ou en Europe, c'est pas tellement que notre recherche soit plus chère ou moins bonne qu'ailleurs, les gens sont de très bonne qualité, mais c'est que il y a des rigidités et des attitudes d'esprit qui font qu'il est plus difficile, à partir du moment où quelqu'un a une idée, d'exploiter cette idée en termes de recherche, puis en termes d'innovation et de développement, et d'aboutir très vite sur le marché. Et ça, c'est lié à nos rigidités mentales et structurelles. Alors là-dessus, c'est vrai que les États-Unis sont beaucoup plus ouverts, et c'est vrai que l'Asie et la Chine sont beaucoup plus ouverts aussi. Mais les marchés chinois n'est pas encore un marché qui a le degré de sophistication des marchés occidentaux.
On doit notre lenteur sur certains points à nos propres turpitudes, nos propres fonctionnements.
Tout à fait, ça c'est tout à fait certain.
Donc les frontières doivent rester, selon vous, ou s'ouvrir encore davantage? Ce n'est pas le problème des frontières.
Ah non, c'est pas un problème de frontières. Si vous voulez faire de la recherche électronique ou de la recherche pharmaceutique en Europe, c'est pas un problème de frontières, c'est un problème d'attitude de la société, des pouvoirs publics, vis-à-vis de cette recherche et de la relation entre recherche et marché.
Mais un ingénieur chinois qui va coûter 5-10 fois moins cher et qui coûtera toujours 5-10 fois moins cher qu'un ingénieur français, est-ce que les jeux ne sont pas pipés d'avance? Les dés ne sont pas pipés?
Non, mais alors attendez, dans le domaine ingénieur, il y a aussi des travaux de masse. Ça veut dire que quand vous faites des logiciels informatiques, il y a de la production de logiciels. Alors ça, la production de logiciels, effectivement, vous pouvez le faire. Et là, c'est d'ailleurs plutôt en Inde qu'en Chine que ça se développe très fortement. Parce que là, le coût de l'heure d'ingénieur est fondamental. Mais c'est pas parce que c'est informatique que c'est nécessairement de la haute technologie à ce moment-là. C'est l'aspect basse technologie d'une technologie qui, elle, est déjà effectivement un peu développée.
Vous estimez que toutes les industries à très haute valeur ajoutée, à forte plus-value, ça peut rester chez nous?
Non, je ne dis pas que ça peut rester entièrement chez nous. Je dis qu'il peut y avoir des filières qui comportent des choses qui sont faites chez nous et des choses qui sont faites en Chine ou ailleurs. D'ailleurs, écoutez, le pays qui a très bien compris ça, c'est le Japon. La croissance japonaise a été nulle, voire négative, pendant un grand nombre d'années, car le Japon avait des rigidités épouvantables et n'arrivait pas à se réformer. Le Japon n'a pas vraiment réussi à se réformer très bien, et les entreprises japonaises que je connaisse se battent encore avec beaucoup de rigidité. Mais ils ont compris qu'ils pouvaient utiliser à leur avantage la proximité de la Chine. Et donc ils ont des relations avec la Chine. Ils font faire un certain nombre de travaux en Chine et d'autres au Japon. Et l'ensemble de cette filière, non seulement a rendu les entreprises japonaises compétitives, mais a permis au Japon de reprendre sa croissance. Donc le Japon est l'exemple où l'ouverture et l'utilisation de la relation avec la Chine, non seulement n'a pas été négative, mais a été positive. Alors c'est peut-être plus difficile pour nous, parce que le Japon est plus près de la Chine, qui a plus de
relations culturelles. Oui, mais enfin quand même, la distance aujourd'hui joue très peu. Quand
mais
même,
la distance joue peu.
Alors pourquoi ça bloque de notre côté et pas du côté japonais?
Ça bloque encore une fois, parce que nous n'avons pas toujours des attitudes assez positives. Ou quand des entreprises ont des attitudes positives, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui essayent de faire ça, bon, elles sont critiquées et on comprend pas, parce que finalement, quand il y a des emplois qui disparaissent ou qui vont ailleurs, on voit les emplois qui disparaissent, on voit pas ceux qui se sont créés ou qui pourraient être créés dans une problématique où on se dirait l'ensemble d'une activité va être plus compétitive parce qu'une partie de cette activité sera faite en Chine ou dans d'autres pays. Donc finalement, si l'ensemble d'une activité est plus compétitive, ça fera aussi plus d'emplois sur les marchés, c'est-à-dire en France, en Europe, aux États-Unis.
La force de l'Union européenne sur ces dossiers, sur le dossier chinois, est-ce que les entreprises françaises internationales, de dimension internationale, tiennent en respect, si je puis dire, les interlocuteurs européens? Est-ce que c'est une aide, un appui, ou bien est-ce que c'est vraiment une question qui vous est indifférente? Vous n'avez pas besoin de Bruxelles pour vous développer?
Bon, écoutez, dans notre cas, effectivement, il n'y a pas d'interférence avec Bruxelles sur ce que nous pouvons faire en Chine, puisqu'il n'y a pas d'importation ou d'exportation de nos produits. Alors, il peut y avoir dans certains cas des problèmes de dumping sur lesquels l'Europe a toujours été assez faible, alors que les États-Unis, même s'ils sont ouverts, et ils sont fondamentalement ouverts, ont accepté l'idée que dans un certain nombre de cas, il y a des pratiques qu'il ne faut pas accepter. Alors, je crois comprendre que l'Europe évolue un peu et qu'avec Mandelson, le commissaire européen au commerce international, on souhaite prendre des positions un peu plus fermes sur les abus du commerce international. Parce que là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur les règles de l'OMC. Il faut absolument veiller à ce que ces règles soient respectées. Et quand il faut prendre des mesures pour éviter qu'elles soient bafouées, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire.
À vous entendre, Bertrand Collomb, l'Europe ne sert pas à grand-chose quand même, hein ? C'est-à-dire, ce qu'elle pourrait faire, elle ne le fait pas bien ou elle envisage seulement de le faire ?
Ben, c'est un peu le problème de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a un potentiel énorme, mais...
Quand je dis l'Europe, je dis les institutions européennes.
Oui,
hein.
Enfin, ceci dit, les entreprises européennes sont quand même plus fortes à cause de l'Europe. Et c'est parce qu'elles sont devenues européennes qu'elles peuvent ensuite aller en Chine. Si vous voulez, si nous n'avions pas construit l'Europe, nous ne saurions pas, n'aurions pas une base arrière qui soit suffisamment large pour ensuite pouvoir avoir des aventures chinoises.
Alors, puisque l'on parle des grands blocs un peu qui découpent le monde, hein, la Chine, l'Europe, les États-Unis, qu'est-ce que vous pensez de la thèse qui a suscité beaucoup de commentaires il y a quelques années, bien sûr celle du choc des civilisations? Est-ce qu'on est dans un choc des civilisations? Ou vous paraît-elle superficielle et
écoutez,
assez caricaturale?
Moi qui ai une vision optimiste des choses, je pense que la globalisation, et ce que je vis de la globalisation en tout cas dans l'entreprise, c'est au contraire une extraordinaire façon de rapprocher les cultures, les civilisations, et de leur permettre de mieux se comprendre. Alors ceci dit, reste vrai que l'expérience des dernières années montre que cette mondialisation et ce rapprochement concernent une certaine frange de la population des différents pays, aussi bien d'ailleurs de nos pays que des pays émergents, et que le fait de mieux se connaître ou d'entendre davantage parler des autres n'élimine pas toujours les oppositions. Et c'est vrai que certains sociologues me rappellent que ben, finalement les guerres les plus inexpiables ou les haines les plus inexpiables, c'est entre les catholiques et les protestants irlandais, qui pourtant ne sont pas loin l'un de l'autre. Alors, ça veut dire qu'il y a certainement des problèmes de civilisation. Il est clair que la confrontation entre le monde musulman et le monde occidental actuellement, on peut pas nier qu'elle existe. On peut pas simplement dire mais non, ça n'existe pas, l'islam est une religion formidablement progressiste, etc. C'est probablement vrai que l'islam est une religion qui n'a pas des valeurs qui soient plus négatives que les religions que les autres religions, mais c'est vrai que le monde musulman dans la façon dont il le comprend actuellement s'est mis un peu dans une optique de renfermement, de défense, qui est probablement très largement lié à son incapacité à se développer économiquement. Voilà, alors, je pense que si on traite les problèmes économiques de la même façon qu'en Irlande, si vous voulez, pourquoi les protestants se sont opposés? Tout simplement parce que les catholiques, qui étaient la majorité, avaient le sentiment qu'ils étaient économiquement dominés par les protestants, qui étaient la minorité.
Oui, ce n'est pas une guerre de religion en tant que telle.
Ben, ça devient une guerre de religion, mais il y a à la base, il y a une rivalité économique, politique, sociale. Même chose au Québec entre les francophones et les anglophones. Bon, donc moi je crois que si on est capable de traiter les problèmes économiques mieux, on évitera que ça devienne un choc des civilisations. Mais il est vrai que dans l'état de gouvernance actuel ou de manque de gouvernance actuel du monde, on n'est pas parti pour traiter très bien les problèmes économiques avec certaines parties du monde.
Une dernière pause avec vous, Bertrand Collomb.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Éclairage donc sur la Chine, c'est bien sûr avec Bertrand Collomb, numéro 1 de Lafarge, numéro 1 des matériaux de construction. Vous êtes le PDG, membre de l'Institut. Vous nous faites part de votre expérience, de votre connaissance de ce pays, de ce marché, des rapports que nous avons à entretenir avec ce pays. Une question qui porte quand même toujours sur l'idée de choc des civilisations. Est-ce que ce Far West, cette réussite des entreprises occidentales aussi en Chine, cet immense appel d'air qui est créé par le marché chinois, est-ce que c'est le triomphe de l'Occident en Chine qui, vous nous l'avez dit aussi, constate de son côté une difficulté à faire valoir d'autres valeurs que celles de l'argent? Et ce triomphe de l'argent, est-ce que c'est le triomphe de l'Occident?
Bah, je voudrais espérer que l'Occident effectivement ait d'autres valeurs que l'argent. C'est vrai que si mes amis chinois me disent on ne parle plus que l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ceci dit, la Chine n'est pas le pays où on a l'impression qu'il y ait un choc des civilisations. En tout cas, certainement pas un choc des religions. Les religions chinoises ne sont absolument pas agressives à l'égard des autres religions, et on n'a pas le sentiment que la religion en Chine soit la base d'une réaction antagoniste aux autres. Hein. Je pense que ce qui peut être antagoniste, c'est la perception de la grandeur chinoise. C'est un espèce de nationalisme chinois et une revanche prise sur des années d'humiliation. Mais j'imagine aussi que les nouvelles générations ayant pris goût au mode de vie occidental, au McDonald's, pour elles, peut-être que ça sera moins important. Alors, je crois quand même que la véritable question, ça sera l'évolution du régime politique. Et ça, on n'a pas de réponse sur ce problème. Parce que c'est vrai que une société, ça se définit pas uniquement par ses paramètres économiques, ça se définit aussi par la façon dont les gens vivent en société, participent à la vie publique. Et l'évolution de la vie politique en Chine sera forcément déterminante à un certain horizon. Et là, malheureusement, on est incapable, on n'a aucune visibilité. Il y a des scénarios catastrophes où, au bout d'un certain temps, les Chinois ne supporteraient plus l'absence de liberté, l'absence de démocratie politique. Et c'est un peu le scénario de Sormand dans son livre récent. Il y a d'autres scénarios où le Parti communiste pourrait lâcher de la vapeur progressivement, de telle façon qu'on arrive progressivement à une démocratie qui met très longtemps à devenir une démocratie de type occidental, mais qui y arrive.
Le modèle chinois, c'est Singapour aujourd'hui ? La Chine regarde vers cette Suisse de l'Asie ?
Je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Singapour soit un modèle pour la Chine. Je pense que c'est plus compliqué que ça.
Ça reste un pays très discipliné, Singapour, extrêmement...
Oui, mais Singapour, c'est une ville. Hein. C'est très difficile d'imaginer un pays comme la Chine avec le système de Singapour. Le système de Singapour, c'est effectivement un système où, dans le fond, c'est un système un peu socialiste, hein, le système de Singapour, dans un certain sens. Car tous les habitants de Singapour sont logés par des systèmes de logement organisés par l'État de Singapour. Donc chacun est à sa place et c'est un ordre libéral, si j'ose.
C'est trop ordonné pour la société chinoise aujourd'hui.
Ah oui. Non, je pense pas que ça soit un modèle possible pour un pays de plus d'un milliard d'habitants.
Une évolution à la Hong Kong, alors que peut-on imaginer ?
Bah Hong Kong, c'était la Chine plus l'État de droit anglais.
Alors, et ça, c'est possible à l'échelle de tout le pays.
C'est probablement possible, effectivement. Mais là, ça demandera longtemps et il y aura probablement des entrechocs.
Les entreprises ont-elles intérêt à un déverrouillage politique ?
Les entreprises ont intérêt à une évolution dans une certaine stabilité. Donc, les entreprises...
Stabilité, ça veut tout dire. Hein.
Mais attendez. Stabilité ne veut pas dire ne rien bouger de telle façon que la pression monte dans la cocotte minute jusqu'au moment de l'explosion. Si je peux faire un parallèle qui est peut-être complètement idiot, nous connaissons un certain nombre de pays africains où après la décolonisation, après la fin de la colonisation, il s'est rien passé. Prenez Madagascar par exemple. Les Français continuaient à avoir le même rôle, etc. Bon, ça a été épouvantable parce qu'au bout d'un certain temps, la marmite a explosé. Et on a eu des rats de Sirac, etc. Bon, je veux pas faire de comparaison évidemment avec la Chine, mais simplement pour dire que nous avons intérêt à ce qu'il y ait une évolution, à ce que cette évolution soit suffisamment progressive pour qu'elle ne conduise pas à des explosions, pour qu'elle ne conduise pas à l'anarchie comme en Russie, mais qu'elle soit suffisante pour ne pas conduire à des explosions. Mais je dois dire que là, moi j'avoue que si je devais donner des conseils au gouvernement chinois sur la façon de faire, je serais très embarrassé, parce que c'est pas un problème simple.
On est dans un court terme qui semble se prolonger indéfiniment, hein, là. On a ce sentiment-là.
Oui, c'est vrai, mais ça évolue quand même un peu. Mais effectivement, ça n'évolue pas très vite. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a un peu de démocratie villageoise, qu'il y a des élections auxquelles le Parti communiste propose plus de candidats que de gens à élire. Mais on nous dit en même temps qu'il y a des révoltes paysannes à droite et à gauche qui sont réprimées de façon assez vigoureuse et dont on parle pas. Donc je dois dire que, de mon point de vue, c'est assez difficile pour moi d'avoir un jugement sur les chances que la Chine a d'éviter des convulsions politiques à un certain moment. Ceci dit, nous y investissons. Donc c'est bien la preuve que nous pensons que c'est jouable.
Investissons, investissement, le long terme, le développement durable aussi. La Chine connaît des risques de catastrophe écologique liés à la démographie. 1,4 milliard de 700 millions à 1,4 milliard en quelques décennies, lié à l'environnement, un environnement à la pollution de l'eau par exemple, c'est considérable dans ce pays qui connaît ce développement que vous avez décrit. Comment se situe Lafarge par rapport à cette situation quelque peu anarchique quand même ?
Écoutez, là je suis relativement optimiste moi, sur la Chine et l'environnement. D'abord l'explosion démographique, bon, mais la politique de l'enfant unique, même si elle n'est pas strictement appliquée, a conduit quand même au fait que les naissances diminuent. Je dirais même que la Chine a le problème inverse, c'est que l'augmentation de population s'est faite beaucoup plus par augmentation de la durée de vie, et que si on se projette à 30 ou 40 ans, avec la natalité actuelle, il risquerait de baisser trop vite. Bon, alors on verra, ils auront probablement la possibilité de corriger d'ici là. Sur l'environnement, c'est vrai que ce n'était absolument pas un souci des Chinois. Je me rappelle, dans mon voyage au Xinjiang, avoir vu des sites absolument merveilleux, complètement défigurés par des usines avec des cheminées de pollution noire. En me baladant sur Yangtze, j'étais pas du tout fier d'être cimentier, parce qu'il y avait énormément de petites usines absolument sales, absolument polluantes, qui étaient épouvantables. Mais c'est en train de changer. Et la présence d'entreprises occidentales et l'évolution technologique permettent de changer. Nous avons une usine tout près de Pékin. Elle touche pratiquement la Grande Muraille, pas loin de... Enfin, la carrière touche la Grande Muraille, pas loin de l'endroit où les touristes vont visiter la Grande Muraille au nord de Pékin. Eh bien, une des choses que nous avons faites, c'est d'améliorer considérablement les performances environnement de notre usine. Et je peux vous dire que ça intéresse beaucoup les Chinois. Nous avons eu beaucoup de visites d'officiels, et il y a des prix qui sont remis, etc. Et dans la perspective des Jeux Olympiques, ils veulent absolument essayer d'améliorer et d'éviter cette pollution qui est présente à Pékin. C'est vrai que quand on va à Pékin, on a la pollution. Alors, je ne sais pas si c'est celle de Pittsburgh des années 50, car je ne suis jamais allé à Pittsburgh dans les années 50, mais c'est certainement celle qu'on avait à Tokyo dans les années 70. Bon, Tokyo est maintenant propre. Je pense que Pékin, dans 30 ans, sera également propre. Actuellement, Pékin est effectivement relativement pollué. Mais quand on entend les Chinois parler des problèmes, maintenant, ils parlent des problèmes d'environnement. La délégation chinoise qui est venue avec le Premier ministre récemment à Paris, il y avait deux thèmes. Il y avait les problèmes sociaux, c'est-à-dire les inégalités entre Est et Ouest, et les problèmes d'environnement et d'énergie, qui pour eux vont un peu ensemble. Donc je pense qu'ils sont sensibles à ça. Moi, je pense qu'ils peuvent se développer sur le plan économique en diminuant, en tout cas n'augmentant pas leur pollution, car il y a de tels écarts de performance qui sont considérables. Enfin, dans notre secteur, nous, si vous voulez, il y a des usines performantes, notamment les nôtres, que nous avons mis au standard les meilleures du monde. Puis vous avez des usines, encore une fois, qui sont des très vieilles usines, très polluantes, qui gaspillent énormément l'énergie. Toutes ces usines-là, il est clair qu'elles vont disparaître. Alors, le seul problème en Chine, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les échelles de temps. Est-ce qu'elles vont disparaître en 10 ans, 20 ans, en 30 ans ou en 40 ans? Mais de toute façon, à mon avis, là, ils ont compris que ce problème est important. Encore une fois, ils le voient autant sous l'angle disponibilité énergétique et éviter le gaspillage énergétique, car leurs ressources énergétiques sont malgré tout limitées, que sous l'angle environnement, sous l'angle CO2, mais dans l'ensemble, c'est un sujet qui est devenu un sujet important pour eux.
Sous l'angle international, par rapport à l'idée que vous pouvez en avoir des États-Unis, des concurrents que vous avez en Chine, est-ce que la Chine suscite une inquiétude, une convoitise? On a vu, hein, c'est peur et convoitise, c'est un peu les deux versants. Comment se situent les autres par rapport à ce pays? Dans une attitude très offensive qui consiste à éliminer des concurrents, vous êtes sous une certaine pression aussi.
Les autres, vous voulez dire les autres occidentaux?
Les autres occidentaux.
Bah écoutez,
nos rivaux, on va dire les États-Unis, allez.
Pour faire oui, alors il se trouve que dans notre secteur, les États-Unis ne sont pas nos rivaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand groupe américain international dans notre secteur. Nos principaux concurrents sont européens, un peu japonais, et puis il y a un nouveau groupe mexicain qui est apparu dans les 25 dernières années. Je pense qu'il va y avoir des groupes chinois qui vont se constituer dans notre secteur. On va trouver une concurrence entre un certain nombre de grands groupes occidentaux qui là seront probablement plutôt européens et japonais, et des groupes chinois. La plupart des entreprises maintenant voient la Chine comme un endroit où il faut qu'elle soit présente à la fois pour le marché chinois et pour produire dans les meilleures conditions. Mais ce qui est intéressant, il y avait une enquête qui a été faite récemment qui montrait que les deux tiers des chefs d'entreprise interrogés voyaient la Chine surtout comme un marché où ils pouvaient développer la vente de leurs produits. Donc c'était pas l'idée, la Chine, territoire de délocalisation de mes productions actuelles, c'était bien la Chine, opportunité de vendre davantage sur leur marché. Donc ça, c'est plutôt positif.
Et c'est l'idée dans laquelle vous vous trouvez précisément vous-même. Fait. Mais est-ce que les États-Unis, pour parler sous l'angle un peu diplomatique, est-ce que vous avez le sentiment que les États-Unis veulent garder la main sur ce pays comme ils gardent la main sur le Proche-Orient, par exemple? Quitte à exclure l'Europe, quitte à exclure les concurrents.
Écoutez, je pense que le rapport entre la Chine et les États-Unis, c'est le rapport entre la première puissance du monde et une puissance qui aimerait bien redevenir la première puissance du monde. Donc c'est assez logique qu'ils aient un dialogue. Et malheureusement, l'absence de cohérence en politique étrangère, ou l'absence d'existence en politique étrangère de l'Europe n'aide pas. Mais dans le domaine économique, moi je vois pas du tout une mainmise des États-Unis sur la Chine. Bon, il y a des secteurs, bien entendu, où le poids politique américain peut faire pencher la balance. On a parlé du nucléaire récemment, mais c'est pas complètement joué. On peut parler de l'aéronautique, etc. Mais il y a plein de secteurs où, que ça soit une boîte américaine ou que ça soit une boîte européenne, il y a pas de différence dans l'attitude des Chinois.
Qui essaient justement de panacher la plupart du temps.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est la volonté des entreprises et la puissance des entreprises pour aller se développer en Chine. Car c'est quand même, comme je vous l'ai dit, une entreprise coûteuse, qui demande du temps, etc. Donc, il faut le faire avec une certaine continuité. Il faut des entreprises suffisamment puissantes. Donc, le problème, c'est pas qu'il y ait une différence d'attitude vis-à-vis de la Chine, c'est de savoir est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises européennes puissantes par rapport aux entreprises américaines puissantes.
Une PME française en Chine
Alors, les PME peuvent y aller, bien sûr, c'est toujours beaucoup plus difficile. Il faut trouver le créneau exact, il faut avoir
l'interlocuteur.
C'est beaucoup plus difficile, bien entendu. Mais au fur et à mesure qu'il y a davantage de grandes entreprises, qu'il y a davantage de réseaux européens en Chine, que les services d'aide aux petites et moyennes entreprises se développent, je pense qu'il y a certainement... Il y a en fait beaucoup de petites entreprises qui trouvent des champs intéressants en Chine.
Pas de corruption obligatoire pour pouvoir obtenir les sésames?
Alors ça, c'est un problème difficile. Dans notre domaine, nous n'avons pas trouvé de corruption obligatoire, puisque de toute façon, s'il y avait de la corruption obligatoire, on n'y serait pas. Et comme toujours, les problèmes de corruption, c'est surtout des problèmes de contrat. Quand on a un contrat unique, un seul coup, là, quand on est présent du point de vue industriel... Généralement, on peut éviter, à partir du moment où on dit aux gens qu'on ne mange pas de ce pain-là, on est là, et puis au bout d'un certain temps, ils sont bien obligés de travailler avec vous.
Un dernier point, Bertrand Collomb. On est à l'Institut, bien sûr, donc on connaît le rayonnement de la langue française. À l'université pékinoise de Tsinghua, qui est l'université, le must, on va dire, pour employer un terme anglais. À Pékin, la France a supprimé le poste qu'elle avait, un poste d'enseignement en français, alors que les États-Unis ont à peu près 50 postes, les Allemands ont 5 postes. Pour des raisons budgétaires, la France a supprimé sa présence française dans l'une des institutions là-bas.
Je pense que nous avons dans ce domaine-là, comme dans d'autres, un problème d'affectation de nos ressources. Nous sommes une nation de taille moyenne, et nous avons des ambitions d'une très grande nation. Et nous voulons être partout en même temps.
Oui, mais enfin, quitter la Chine aujourd'hui.
Justement, et nous privilégions finalement l'existant par rapport au nouveau dans les allocations budgétaires. Il est toujours très difficile de redéployer. Et alors, c'est vrai que ça peut briser le cœur de supprimer deux postes dans un pays africain où on a toujours été depuis 50 ans, etc., pour les mettre en Chine. Mais vous avez donné vous-même la réponse. C'est pas raisonnable de ne pas mettre des moyens. Alors, je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que les écoles françaises Les grandes écoles françaises sont extrêmement présentes en Chine. Il y a un groupe d'écoles, 11 écoles d'ingénieurs qui s'appelle Paritech, qui a développé une présence en Chine, qui à la fois va chercher des étudiants chinois qui viennent dans les écoles à Paris, et qui en même temps fait des formations là-bas. Alors, simplement, on a un vrai problème, c'est-à-dire que si on base cette relation uniquement sur le français, on n'y arrivera pas. Donc, il faut avoir une approche souple. C'est l'approche que nous avons dans l'entreprise, qui me pose quelques problèmes parfois avec mes confrères des académies. On ne peut pas dire aux Chinois, pour travailler chez Lafarge, il faut parler français. C'est pas possible. On peut leur dire, pour travailler chez Lafarge comme dans un autre groupe international, il faut parler anglais. Ensuite, à partir du moment où ils parlent anglais et où ils travaillent chez Lafarge, on peut leur dire, vous savez, ça serait très bien si dans votre carrière, on vous aidait à apprendre le français, parce que là, vous accéderiez à une culture riche, importante, en même temps, vous comprendriez mieux ce que c'est que Lafarge. Donc, il y a deux niveaux très différents. L'anglais, qui est une langue, c'est pas l'anglais d'ailleurs, c'est l'anglais international.
C'est l'espéranto. Voilà.
C'est une langue de communication. Et malheureusement, quand on parle l'anglais de communication, on connaît pas Shakespeare. Hein. Et l'idée qu'il faut connaître Shakespeare pour parler en anglais, dans l'anglais des affaires, c'est idiot. Certains de professeurs d'anglais croient qu'ils ne peuvent enseigner que la langue de Shakespeare, mais non. Bon, par contre, le français, il me semble qu'il faut le positionner comme quelque chose, une langue de culture, une langue qui apporte plus, et non pas penser que on peut remplacer l'anglais par le français comme langue de communication internationale primaire, élémentaire, si j'ose dire. Et c'est la position que nous avons, c'est la position qu'ont les écoles également, en disant bon bah écoutez, si vous parlez pas français quand vous venez à Paris, c'est pas grave, vous l'apprendrez. Il faut que vous parliez l'anglais, on fera un certain nombre de cours en anglais. Et puis finalement, quelqu'un qui a passé 2 ans à Paris,
ça marche, ils accrochent.
Ça marche. Non, je crois que ça marche et je crois qu'effectivement, il faut qu'on développe des efforts pour que un certain nombre de Chinois soient formés dans la culture et la langue française. Mais il faut le faire par une approche souple qui utilise l'anglais comme premier véhicule de communication et ensuite les développe sur le français.
Merci beaucoup Bertrand Collomb d'être venu pour parler de la Chine et d'avoir fait part de votre expérience en tant que, bien sûr, numéro 1 de Lafarge, qui est le leader mondial des matériaux de construction. Vous êtes membre de l'Institut, je le rappelle. Le bienvenu sur cette antenne, sur ces questions qui, bien sûr, sont porteuses d'avenir. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup.
Merci.